Technologie, science,
algorithme,
simulation,
informatique.
Technologie.
Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans le 97e podcast d'Interstice. Il y a 61 ans, dans une usine de General Motors, au New Jersey, était mis en service le premier robot industriel de l'histoire, Unimate. Depuis, la robotique a énormément évolué pour épargner à nos semblables des tâches difficiles, dangereuses ou répétitives. Mais depuis quelques années, un nouveau genre de robot émerge, conçu pour s'adresser à des humains et interagir avec eux. On les appelle les robots sociaux. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Xavier Alameda Pineda, chef d'équipe de la jeune équipe INRIA Robot Learn, rattaché à l'université Grenoble-Alpes et membre du projet européen Spring, qui rassemble 6 pays et 8 partenaires autour du sujet des robots sociaux et de leur usage pour prendre soin de nos personnes âgées. Xavier Alameda Pineda, bonjour.
Bonjour.
Alors dites-nous, quelle est la différence entre un robot normal et un robot social ?
Disons que les robots sociaux, c'est des robots qui ont, ce qu'on dirait, des capacités d'interaction sociale. Par exemple, un robot social est censé être capable de démarrer une conversation, d'accompagner un groupe de personnes de l'accueil à la salle qu'ils cherchent, ou même d'accueillir des gens qui arrivent au sein de la salle d'attente d'un hôpital, par exemple.
Mais les robots normaux ne sont-ils pas déjà en interaction avec nous ? Quand nous utilisons une imprimante, par exemple, qu'est-ce qui différencie ces interactions de celles du robot social ?
Quand on interagit avec une imprimante, avec l'ordinateur, on doit utiliser leur code. C'est-à-dire, ces codes, ça va être des boutons, ça va être des phrases clés qui permettent de démarrer l'interaction. Alors que ce qu'on attend d'une personne, et donc d'un robot social, c'est que le robot ait appris les codes sociaux des humains. Et ceci rend la chose beaucoup plus compliquée qu'avoir des boutons pour démarrer une interaction ou que pouvoir dire « Alexa, deux points, cherche-moi un restaurant près d'ici ».
Alors, qu'est-ce qui rend ces problèmes particulièrement difficiles ?
Tout d'abord, c'est une question de genre de scénario que le robot va rencontrer. C'est-à-dire, quand on imagine ce que le robot va devoir faire, nous imaginons un certain nombre de scénarios et on essaie de préparer le robot au mieux possible pour ces scénarios. Mais, bien entendu, on ne peut pas imaginer tous les scénarios possibles et le robot, souvent, va se retrouver à voir des choses pour lesquelles on n'a pas préparé, à entendre des choses pour lesquelles on n'a pas préparé, et ainsi de suite. Le robot, il doit constamment s'adapter à des nouvelles perceptions, des nouvelles images, des nouveaux sons, et aussi des nouvelles configurations de scénarios. Donc ceci est une première problématique qui est très difficile à résoudre. La deuxième problématique, c'est que pas mal de nos algorithmes se basent sur l'apprentissage automatique.
Le machine learning, c'est bien ça ?
C'est bien ça, exactement. Et cet apprentissage automatique au machine learning a besoin de données, que ce soit des images, des textes, des sons, etc. Et ces données-là, il faut les avoir, il faut pouvoir les traiter. Et puis ensuite, il faut savoir en tirer des conclusions intéressantes pour que le robot puisse en extraire des connaissances pour pouvoir mieux interagir par la suite. Peut-être un troisième axe sur lequel on travaille aussi, c'est le fait que les capacités de calcul du robot sont réduites par rapport aux ordinateurs qu'on peut avoir dans le laboratoire. Donc une fois dans le laboratoire, on peut aboutir à un logiciel qui est capable de résoudre certaines tâches avec une certaine performance. Il faut par la suite qu'on l'adapte pour qu'il puisse faire ses calculs dans la plateforme robotique en question.
Pour nourrir ces intelligences artificielles, il nous faut des données particulières qui ont été étiquetées par des humains.
Tout à fait. Depuis un certain nombre d'années, on utilise des techniques qu'on appelle d'apprentissage profond ou de deep learning en anglais. Et ces genres de techniques ont l'avantage d'arriver à des performances pour certaines tâches qui sont très remarquables. Un des premiers exemples en vision par ordinateur, ça a été la classification d'images. Donc de décider si dans une image, il y a une table, un chien ou un avion. Et pour cela, à l'époque, des chercheurs américains ont collecté un dataset avec 1 million d'images et donc ils les ont annotées. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont passé du temps à dire qu'est-ce qu'il y avait dans les images. Mais Le problème est que si on doit faire ça pour chaque tâche que le robot doit résoudre, ceci est impraticable, c'est juste impossible. Donc c'est pour cela qu'on imagine des méthodes qui peuvent utiliser les datasets qui existent déjà, puisqu'ils ont déjà été annotés, mais aussi qui peuvent s'adapter à des nouvelles images, des nouvelles tâches, des nouveaux datasets, sans avoir des étiquettes, puisque c'est les étiquettes qui sont très très coûteuses d'obtenir. On va devoir développer d'autres sortes de techniques. Et pour expliquer ça, je veux faire un peu la différence entre la perception du robot et les actions du robot. En ce qui concerne la perception, le robot doit savoir où se trouvent ses interlocuteurs et donc il a besoin de détecter et suivre la personne. Et aussi, il doit être capable de les réidentifier, c'est-à-dire de pouvoir comprendre que c'est la même personne avec laquelle il interagissait il y a 2 minutes. Nous avons à nos dispositions des datasets publics avec lesquels on peut travailler. Sauf que ces datasets, ils n'ont pas été enregistrés avec la caméra du robot, ils n'ont pas été enregistrés dans la salle d'attente de l'hôpital avec les mêmes conditions d'illumination, etc. Et donc maintenant, on a ce qu'on appelle un problème d'adaptation de domaine. C'est-à-dire que la tâche reste la même, j'ai un dataset enregistré dans un domaine spécifique, et maintenant je vais exploiter ça dans un domaine autre qui sera, dans notre cas nous, à la salle d'attente d'un hôpital.
Finalement, il y a 2 étapes d'apprentissage. Une première en amont avec des données publiques générales et une deuxième pendant que le robot est en service, pour l'usage spécifique qui lui est demandé.
Voilà, on peut penser à ça comme quand nous, on utilise des choses qu'on a déjà apprises alors qu'on se trouve face à une nouvelle tâche, par exemple.
Voilà comment vous résolvez la question de la perception. Et pour l'action du robot ?
Donc pour l'action du robot, on va se baser sur un tout autre type de méthode d'apprentissage parce que, de base, étiqueter les actions optimales d'un agent en général ou d'un robot en particulier, c'est quelque chose de très compliqué. Si le robot se trouve dans la pièce et il doit aller d'un point A à un point B, il se trouve qu'il y a plusieurs chemins possibles. Donc, dire au robot « ceci est l'action que tu dois prendre à ce moment-là », c'est un problème qui est mal posé parce qu'il n'y a pas une seule option. Et donc, on essaye de prendre en main tout un autre type de méthode qu'on apprend l'apprentissage par renforcement. Et à la place de dire au robot quelle est la bonne action à prendre, on va lui dire en fonction d'où il se trouve et de l'action qu'il prend, si ceci était une bonne action ou une mauvaise action. Donc, on va lui donner une bonne ou une mauvaise récompense. Par exemple, est-ce que l'action le rapproche de la cible ? Donc, si oui, on va lui donner une bonne récompense. Par exemple, est-ce que l'action le rapproche trop d'une personne de façon à la faire sentir inconfortable ? Alors on va donner une mauvaise récompense. Et avec cet apprentissage par renforcement, le robot il va trouver sa politique optimale d'action, donc en fonction des récompenses qu'on lui a données. Et l'avantage de ça, c'est qu'il y a certaines de ces récompenses qui peuvent être calculées en temps réel alors que le robot il est en train d'agir. Et donc, de ce fait, il continue à apprendre en même temps qu'il agit.
Et tout ce chemin accompli, il est fait pour une tâche du robot. Et pour chaque nouvelle tâche qu'on veut lui demander, il faut reprendre le travail depuis le début.
Oui, c'est vrai. Surtout, ce qu'on se questionne souvent, c'est ce qu'on a appris avec les tâches entre guillemets, on a déjà résolues. Quelle partie de ces nouvelles connaissances que nous avons extraites, est-ce qu'on peut les réutiliser ? Donc certains on peut, certains on ne peut pas, ça dépend de la tâche, etc. Mais c'est vrai qu'il faut se questionner en amont. Il faut aussi tester les choses en amont avec des données, des simulateurs, puis ensuite dans le robot, afin de pouvoir après faire le test au sein de l'hôpital.
N'est-il pas un problème dans l'utilisation de ces données personnelles dans un contexte où elles n'ont pas forcément donné leur accord ?
Pour l'instant, quand il s'agit des expériences, il faut absolument que les personnes aient donné leur accord. C'est une condition sans laquelle on ne peut pas faire nos expériences et on ne veut pas faire nos expériences. Alors, quand on se pose la question de déployer, on va dire, de façon large cette technologie, évidemment, il va falloir développer la législation qui va avec. Et puis, nous serons là en tant qu'experts scientifiques pour conseiller les gens qui doivent prendre ces décisions. Dans notre cas précis, nous devons évaluer la technologie qu'on développe au sein de la salle d'attente d'un hôpital de jour. Donc, on se pose la question de comment on organisait les expériences au sein de l'hôpital. Et nous en avons conclu, après avoir échangé bien évidemment avec le personnel soignant, que ce qui était le plus simple, c'était que le robot ait une salle où il se trouve et où les personnes qui ont envie d'interagir avec le robot et qui bien sûr ont signé un consentement, peuvent interagir avec le robot. Et ça sera une façon d'évaluer la technologie sans avoir un impact négatif sur l'organisation de la vie et du travail à l'hôpital.
Et le but de ces robots, c'est d'animer une salle d'attente, comme un panneau interactif finalement.
Oui, un peu plus que ça, puisque le robot, il peut être à l'initiative de certaines actions, de certaines propositions. Et surtout, ce qui est très différent d'une borne ou d'un panneau, c'est que le robot, il peut se déplacer dans l'espace, et à la fois pour accompagner les gens, pour présenter certaines activités, ou même pour laisser les gens tranquilles, et à la fois aussi, et ça c'est très intéressant, ça fait partie des recherches qu'on fait ici à l'INRIA, le robot, il peut s'orienter, se déplacer pour mieux percevoir, et donc, encore une fois, on revient à tout au début pour s'adapter à l'utilisateur et ne pas forcer à l'utilisateur à s'adapter au code spécifique du robot ou d'autres technologies.
Mais au final, une vraie personne pourrait faire le travail d'un robot social, là où d'habitude les robots effectuent des tâches qui sont trop dangereuses ou trop difficiles pour nous. Quelle plus-value ça représente de mettre un robot social dans ce contexte d'hôpital ?
Je pense qu'il y a un avantage à utiliser les robots dans ces contextes-là. C'est la manque de fatigue, on va dire l'endurance. Par exemple, un robot, qu'on lui demande une fois ou 425 fois où sont les toilettes, bah, il va répondre de la même façon. Donc vous voyez, c'est des tâches, qui peuvent être des tâches sociales, au sens d'interaction sociale, mais qui peuvent être très répétitives, et donc pas forcément très intéressantes pour les gens qui sont formés à soigner les humains, peuvent être faites par un robot social. Ce qui est très intéressant et très important à souligner, c'est que nous, la question qu'on se pose, c'est quelle est la technologie qui sera mieux acceptée et par les patients et par le personnel soignant. On n'essaye pas de montrer que ce qu'on développe, nous, est la meilleure chose à faire. Donc la question de l'acceptabilité de la technologie est au cœur des recherches du personnel de l'hôpital Broca qui sont impliqués dans Spring, et ça fait partie des objectifs scientifiques de ce projet européen.
Eh bien, c'est sur ce sujet que va s'achever notre interview. Merci beaucoup, Xavier Alameda Pineda, d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup, c'était un plaisir de pouvoir discuter et présenter mes sujets de recherche, et j'attends avec impatience de voir les prochains numéros d'Interstice.
Merci beaucoup, et merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre écoute. Au revoir, Xavier Alameda Pineda.
Au revoir.
Chers auditeurs et auditrices, à la prochaine et n'oubliez pas les sciences du numérique sur Interstice.